Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutube. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. C'est une décision surprise de la justice japonaise. Carlos Ghosn pourrait être remis en liberté sous caution dans les heures qui viennent. L'ex-PDG de l'alliance Renault-Nissan, soupçonné de malversation, n'a toujours pas le droit de quitter le Japon.
À moins de 3 mois des élections européennes où La République En Marche est au coude à coude dans les sondages avec le Rassemblement National de Marine Le Pen, Emmanuel Macron se fend d'une tribune dans les journaux des 28 pays de l'Union européenne.
Une tribune traduite en 24 langues, c'est une adresse urgente aux citoyens. Le Brexit, la résurgence des nationalismes, plonge l'Europe dans une crise mortifère, explique le président français, qui se pose en architecte d'une renaissance du projet européen. Dans ce journal encore, le témoignage d'un ancien esclave du groupe État islamique en Syrie. Nos envoyés spéciaux l'ont rencontré en Irak.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, on posera la question suivante à Sébastien Rocher, qui est directeur de recherche au CNRS. Grenoble, pourquoi ces flambées de violence ?
Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Europe n'a été aussi nécessaire et pourtant jamais l'Europe n'a été autant en danger. La tribune d'Emmanuel Macron adressée directement ce matin aux citoyens d'Europe dans plusieurs quotidiens régionaux en France et dans la presse européenne pose le président français et ses propositions en seul rempart contre les nationalistes et divers dangers à 3 mois des élections européennes. Bonjour Rosalie Lafarge.
Bonjour.
Face au Brexit, à la désunion de l'UE, face, je cite, aux exploiteurs de colère soutenu par les fausses informations qui promettent tout et son contraire, Emmanuel Macron ne propose rien de moins que liberté, protection et progrès.
Oui, parce que si l'Europe n'a jamais été autant en danger, la solution au danger, c'est moi. Voilà ce qu'on lit entre les lignes d'Emmanuel Macron. Le président plaide pour la reconstruction du projet européen. Ça passe pour lui par la protection de cette Europe. Il veut par exemple interdire le financement des partis politiques européens par des puissances étrangères, créer une agence pour lutter contre les cyberattaques et les manipulations des élections. Il souhaite aussi remettre à plat l'espace Schengen avec un office européen de l'asile et une police des frontières communes. Il milite pour une préférence européenne dans les marchés publics et un salaire minimum à l'échelle de l'Union. Il fixe enfin les objectifs zéro carbone en 2050 et 2 fois moins de pesticides en 2025.
L'Europe, c'est la principale colonne vertébrale du macronisme. Et bien Emmanuel Macron essaye d'être le président de l'Europe quelque part par cette tribune.
Philippe Moreau-Chevrolet est professeur de communication politique à Sciences Po et dirigeant du cabinet MCBG Conseil.
On a l'impression d'être face à une communication marketing d'une grande entreprise qui sortirait un produit dans 28 pays. Ça n'existait pour l'instant que dans le monde de l'entreprise. Donc c'est assez impressionnant de faire ça au niveau du politique. Emmanuel Macron fait ça pour montrer d'une part que la France peut encore dominer l'Europe. Quelque part, c'est ce fantasme-là qu'on veut aussi vendre aux Français. C'est aussi une communication domestique. Il y a la volonté d'imposer un rapport de force aux partenaires européens, donc de travailler les opinions publiques de chacun des pays pour essayer de peser finalement sur les partenaires de l'intérieur. C'est ce que font tous les présidents aujourd'hui qui cherchent à gagner de l'influence.
Contre le repli nationaliste qui, selon lui, ne propose rien, le président est en campagne et son principal outil de campagne, voire le seul, c'est lui.
Emmanuel Macron qui appelle donc à une renaissance européenne. Le président français a déjà reçu le soutien de Jean-Pierre Raffarin. Alors Rosalie, pourquoi l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac préfère-t-il soutenir le camp présidentiel plutôt que sa famille, la liste du parti Les Républicains aux européennes ?
Laurent Wauquiez voulait que Jean-Pierre Raffarin prenne position. Il a sa réponse pour l'ancien Premier ministre. Le projet européen d'Emmanuel Macron, c'est le plus abouti. Il adhère au constat et à la vision. C'est donc lui qu'il soutient. Sans aucune hésitation, précise-t-il au Figaro. Ça n'est qu'une demi-surprise. Ça fait un moment que Jean-Pierre Raffarin fait les yeux doux au président. Mais l'officialisation des choses, la prise de position claire, voilà qui risque de faire mal au parti Les Républicains. Déjà bien mal en point.
Analyse signée Rosalie Lafarge. Mais la recomposition de la droite et du centre après les européennes souhaitées par Jean-Pierre Raffarin ne se fera pas dans la douceur. Éric Woerth, le président LR de la commission des finances à l'Assemblée, affirme déjà que si Jean-Pierre Raffarin soutient une autre liste, que LR, alors il ne sera plus dans LR. De la recomposition de la droite à présent au niveau européen, 12 partis membres du PPE, le principal groupe politique au Parlement, ont officiellement demandé hier l'exclusion du Premier ministre populiste hongrois Viktor Orban et de son parti, le Fidesz, trop hostile à l'Union européenne et à ses valeurs, comme l'illustrent des affiches en Hongrie et une campagne menée dans les médias pro-gouvernementaux. La goutte de trop pour ces 12 partis membres du PPE issus d'Europe du Nord, du Benelux, de la Grèce ou encore du Portugal. En France, les LR ont officiellement soutenu Viktor Orban encore avant-hier. Et c'est une source de tension, on le sait, entre le patron des LR, Laurent Wauquiez, et sa principale rivale, Valérie Pécresse. Son nouvel avocat ténor du barreau japonais est-il plus convaincant que les précédents? Carlos Ghosn pourrait être libéré sous caution dès aujourd'hui au Japon. Et c'est une surprise, le tribunal de Tokyo a accepté la libération de l'ancien patron de Renault Nissan, incarcéré depuis 3 mois et demi pour des soupçons de malversation financière. La justice avait jusqu'ici rejeté toutes ses demandes de libération. La caution a été fixée à 1 milliard de yens, l'équivalent de 8 millions d'euros. La sortie de prison de Carlos Ghosn pourrait donc avoir lieu dès aujourd'hui, sauf si le procureur fait appel ou si d'autres chefs d'accusation justifient une nouvelle arrestation. Aux États-Unis, les démocrates passent à la vitesse supérieure contre Donald Trump en lançant et en renforçant plusieurs enquêtes parlementaires sur une collusion supposée avec la Russie ou des paiements pour acheter le silence de ses maîtresses présumées. Les démocrates réclament à la Maison-Blanche et au chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo de leur livrer les détails d'échanges entre le président américain et son homologue russe, Vladimir Poutine. 81 personnalités et organisations sont également sommées de livrer des documents sur des soupçons d'entrave à la justice, de corruption et d'autres abus de pouvoir de la part du président Trump, ses associés et des membres de son administration. Enquête bidon, répond Donald Trump. On y revient dans la revue de presse internationale de Camille Manière après le journal de 7h30. Arrêtons-nous à présent sur la bataille que livrent les forces démocratiques syriennes contre le dernier bastion du groupe État islamique dans le village de Baghouz à l'est de la Syrie, tout près de l'Irak. Et des milliers de civils ont été évacués ces derniers jours et notamment des esclaves libérés du joug de Daesh. Témoignage recueilli en Irak par notre envoyé spécial Mathieu Mondoloni.
Il s'appelle Kinan, il a 10 ans. Il a été libéré il y a une semaine, après 5 années passées à servir un djihadiste syrien du nom de Abu Saad. Son histoire, elle commence en 2014, quand il est fait prisonnier par Daesh. Beaucoup de morts, des gens massacrés par les combattants de l'État islamique, dit-il. Il nous frappait, beaucoup. Il marque une pause, puis il lâche. Ils ont exécuté mon père, sans raison. Kinan a les yeux dans le vide. Il raconte qu'ils étaient enfermés dans une école avec sa famille. Eux sont achetés par Abu Saad, qui les emmène dans la région de Baghouz, dans le califat de l'État islamique. C'est là-bas que ma mère est morte. Quand la région de Baghouz est assiégée par les forces démocratiques syriennes, le djihadiste décide de fuir pour Idlib, la dernière poche de l'État islamique après Baghouz. C'est là que mon oncle m'a retrouvé. Il a payé 30 000 dollars à Abu Saad pour me récupérer. 5 jours de route plus tard, il est au Kurdistan irakien. La liberté, enfin. Le téléphone de son oncle sonne. Un message, c'est une vidéo dans laquelle on voit un autre petit garçon de 9 ans cette fois. Il porte l'uniforme noir de l'État islamique. Il dit que son père a été tué par les djihadistes de Daesh et sa mère par une frappe aérienne. Il vient de fuir le califat. Il est en sécurité, libre.
Témoignage recueilli par Mathieu Mondoloni et Eric Audra, envoyés spéciaux de France Culture en Irak.
7h08 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Catherine Dutu. 7 départements d'Île-de-France se disent prêts à entrer au capital d'aéroport de Paris.
Le groupe ADP que le gouvernement veut privatiser, la mesure examinée dans le cadre de la loi Pacte est de retour à l'Assemblée, aujourd'hui en commission. La droite et la gauche s'étaient déjà opposées à cette privatisation le mois dernier au Sénat. Cette fois, ce sont donc les départements franciliens, des communistes à la droite qui veulent se faire entendre. Enjeu décrypté dans le journal de 7h30. Que faire des gravats et des déchets des centrales nucléaires? Les démantèlements annoncés pour les prochaines années en France posent beaucoup de questions et pour la première fois, les citoyens vont pouvoir y répondre dans le cadre d'un débat public sur le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Les détails avec Roméo Van Maastricht.
Une vingtaine de débats est prévue sur tout le territoire, de Caen en Normandie à Bar-le-Duc dans la Meuse, à quelques kilomètres seulement du très sensible site d'enfouissement de déchets de Bure. Seront abordées lors de ces rencontres plusieurs questions. Que faire des déchets nucléaires issus du démantèlement des centrales? Comment les entreposer? Quel transport? Quel risque pour la santé? Isabelle Harel-Duritou, la présidente de la commission spécialement créée pour l'occasion, ne veut s'interdire aucun sujet.
Il n'y a aucun sujet tabou, toutes les discussions sont possibles. Et d'ailleurs, nous envisageons de débattre des alternatives au stockage géologique profond. Nous faisons tout pour que les gens puissent s'exprimer, puissent échanger de façon pacifique. Nous nous souhaitons que tout le monde puisse être entendu. L'essentiel, c'est que ça se fasse dans le respect des gens.
Pour organiser ce débat de 4 mois, la commission a obtenu un budget de l'ordre d'€1,5 million. Un bilan sera rendu au ministère de la Transition écologique et solidaire, ainsi qu'à l'autorité de sûreté nucléaire. Libre à eux de prendre en compte ou non le résultat de ces discussions.
Alors que le sommet du Vatican sur les abus sexuels s'est tenu la semaine dernière pour tenter de répondre à une série de scandales sur la pédophilie, un documentaire diffusé est diffusé ce soir sur Arte et il s'intéresse aux religieuses abusées, l'autre scandale de l'Église. Cette enquête d'Éric Quintin et de Marie-Pierre Rimbaud lève le voile sur un tabou, une omerta qui empêche les victimes de parler et qui rend le phénomène difficile à mesurer. Margot Steve a recueilli le témoignage d'une religieuse qui dit avoir été abusée dans une communauté du centre de la France en 1986.
Laure, qui préfère garder son vrai prénom secret à 19 ans quand elle entre dans cette communauté. À l'époque, c'est une jeune fille fragile qui a déjà subi un viol à 14 ans et qui compte sur l'église pour réparer son traumatisme. Elle va donc voir un prêtre pour se confesser.
Je lui ai raconté mon histoire, je lui ai dit que ça n'allait pas, qu'il n'était pas bien. Et puis tout de suite, pratiquement tout de suite, il a mis ses mains sur mes seins, disant que c'est comme ça que je pouvais être guérie. Après, ses mains, il les a descendues, et puis ensuite, il les a mises entre mes cuisses en disant que c'était les seules solutions pour être guérie, c'était de toucher des points qui avaient été salis. Ça m'a tellement sidérée. Ce prêtre a fait que ma vie s'est enfoncée encore plus.
Alors, pendant 30 ans, Laure se tait.
Dans un cadre qui est celui de l'Église, mais c'est pas possible, d'abord parce que le sexe est un sujet tabou. Complètement tabou. Ça pouvait pas venir du prêtre. C'était pas possible. Pour moi, j'étais dans un environnement protégé. On m'aurait pas cru. De toute façon, on m'aurait pas cru. C'est pas vrai. On m'aurait pas cru.
Après un passage dans un autre monastère, elle quitte l'église et décide au printemps 2016 de parler. Le prêtre qu'elle accuse passe devant la justice canonique qui reconnaît des gestes déplacés mais ne décide d'aucune sanction.
L'église, elle a peur. Pendant des années, ça a été caché. Maintenant, on parle. Et moi, je ne me tairai jamais et je ne me tairai jamais plus. Voilà, parce que je veux qu'il y en ait d'autres qui parlent.
Laure a décidé il y a quelques jours d'écrire au procureur de la République tout en sachant que les faits sont prescrits. Mais selon elle, une quinzaine d'autres sœurs auraient subi des abus sexuels de la part de cet homme.
Le témoignage de Laure et d'autres sont à retrouver en une sur franceculture.fr. Le documentaire « Religieuse abusée, l'autre scandale de l'Église » réalisé par Éric Quintin et Marie-Pierre Timbaud est diffusé ce soir à 20h50 sur Arte. Marie-Pierre Rimbaud sera l'invitée de France Culture dans le journal de midi et demi. Dans l'église encore, le pape François s'est engagé hier à ouvrir les archives jusque-là secrètes du Vatican sur la papauté de Pie XII, ce que des historiens et des membres de la communauté juive réclamaient depuis des décennies, estimant pour certains que Pie XII, pape de 1939 à 1958, a fermé les yeux sur l'extermination des juifs. Le Vatican lui assure que ce pape a œuvré en coulisses pour limiter l'ampleur de la catastrophe. L'ouverture de ces archives n'est prévue que pour le 2 mars 2020. Une deuxième personne a connu une rémission durable du VIH1, le virus à l'origine du sida. Après avoir interrompu son traitement, ce patient, dit patient de Londres, est probablement guéri. Selon les chercheurs qui s'expriment dans le journal Nature, il n'a pas montré de signe d'être atteint du virus depuis près de 19 mois. Le temps de ce mardi 5 mars, plus calme qu'hier, un ciel chargé néanmoins de la Normandie jusqu'au Grand Est avec des averses localement orageuses ce matin, des éclaircies de plus en plus accentué au fil de la journée. Et puis cet après-midi, il fera entre 10 et 17 degrés du nord au sud jusqu'à 21 près de la Méditerranée, Guillaume Erner.